tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Chouette,
chouette, chouette,
indirect. Le batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct.
En direct.
88.8 FM.
Nous écoutez à volonté, radiogrenouille.com.
Bonjour à tous. Début janvier 2014, Edward Snowden dévoile un nouveau document de la NSA. On y apprend que la NSA planche sur un ordinateur quantique capable de briser tous les programmes de cryptage. Alors, un ordinateur, a priori, tout le monde comprend, mais un ordinateur quantique, cela semble déjà beaucoup plus compliqué. Petit détour aujourd'hui par la physique classique et la physique quantique pour comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. Et ce détour, nous allons le faire avec Marc-Antoine Sénéchal, professeur de physique quantique et charpentier. Marc-Antoine Sénéchal, bonjour.
Bonjour à toi, Emmanuel.
Tu vas bien ?
Oui.
Alors, je disais, petit détour par la physique quantique pour comprendre ce qu'est un ordinateur quantique. J'aimerais qu'on se déporte un peu début du XXe siècle pour comprendre ce qu'on appelle le saut quantique par rapport à la physique classique. C'est quoi ce saut quantique qui s'opère par rapport à la physique quantique ?
C'est une question qui aurait mille réponses parce qu'en fait, c'est une physique qui a mille et un visages. Disons que c'était une époque où nos appareils de mesure, nos appareils expérimentaux, avaient atteint une précision qui a permis de découvrir des phénomènes mais complètement inattendus de la matière, des énergies. Effectivement, ça a commencé avec Monsieur Planck.
Max Planck.
C'est lui un peu qui, on a donné son nom pour la, un peu la sentinelle entre le monde classique et le monde quantique. C'est une constante fondamentale maintenant. Il y a aussi tout de suite après Albert Einstein avec l'effet photoélectrique en 1905. Ensuite, il y a les fonctions d'onde. Il y a la relation d'Heisenberg. Ça va être très difficile de résumer tout ça en 5 minutes parce que c'est très différent.
Alors par contre, c'est bien de préciser un peu les physiciens qui sont là à ce moment-là. On est au début du 20e, donc il y a effectivement Niels Bohr, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, tu me disais aussi De Broglie.
Oui.
Voilà, c'est un peu la physique quantique à ce moment-là. Nous sommes donc au début du 20e, puis ça va s'accélérer dans les années 20, les années 30. Et une des découvertes, je crois, assez importantes, c'est de s'apercevoir que la lumière... C'est un travail sur la lumière qui est que, en fait, une matière émet, une particule, disons, émet de la lumière de manière discontinue et par paquet.
Oui, voilà. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que la physique quantique a trouvé son nom. On parle de quanta d'énergie.
Ça veut dire des quantités d'énergie ?
Voilà.
Alors, qu'est-ce
des
que
petits quanta élémentaires.
Qu'est-ce que le fait de s'apercevoir que la lumière émet de manière discontinue opère un peu comme première petite révolution.
Alors c'est juste une petite révolution, enfin une grande révolution dans nos concepts, parce que pour nous la lumière était une onde, et elle était parfaitement bien comprise, enfin je veux dire par là que monsieur Maxwell avait fait des équations très belles. Et par contre, c'est pas encore la grande révolution quantique.
Tu veux dire que jusqu'à présent, la lumière, c'était une onde et pas une matière. C'est-à-dire pas une
particule.
Quantité,
pas une particule. Tu vois, les particules, il y a deux grandes familles. Il y a les fermions, c'est-à-dire ce qui a une masse, c'est la matière, par exemple. Il y a aussi les bosons, qui n'ont pas de masse. Les photons, donc les particules qui décrivent la lumière, sont des bosons. Mais en définitive, que ce soit énergie, matière, tout peut être décrit d'une certaine manière par une particule.
Première révolution quand même importante, hein, de s'apercevoir que la lumière peut être une particule.
Oui.
Bon, ça veut dire que c'est peut-être un peu de la matière.
Oui, en tout cas, de toute façon, on a compris aussi que les particules ont leurs propres limites. La physique quantique a encore évolué depuis. Et on parle de champ, de physique de champ quantique, et non plus de particules.
Alors, mais la vraie révolution, le pilier un peu dans la physique quantique, c'est la superposition des états des particules. C'est une particule peut-être à plusieurs endroits à la fois.
On peut le dire comme ça. En tout cas, ça enfonce le clou. Mais en définitive, c'est vrai qu'une particule, à partir du moment où elle est isolée, à l'échelle quantique...
Alors l'échelle quantique, c'est tout petit. Hein.
Oui, on est déjà rentré dans l'atome. Et donc spontanément, tout se passe comme si c'était une superposition de tous les états qui lui sont possibles, qui lui sont rendus possibles par rapport au contexte, aux lois de la physique qui sont autour d'elle. Et en fait, c'est une superposition d'ondes de potentialité, et c'est seulement quand on la mesure, ou tout simplement quand elle interagit avec quelque chose, que là, elle se reconcrétise, elle devient factuellement une particule dans un endroit déterminé.
Le fait qu'une particule soit à plusieurs états possibles, c'est quoi ? C'est parce que cette particule se transforme en onde ?
On la représente effectivement par une onde. Mais la nature de cette onde, on la décrit au niveau des mathématiques comme une densité de probabilité de présence. Donc, c'est au niveau conceptuel très nouveau pour ça. Et ça peut sembler complètement fou, mais il ne faut pas oublier que c'est par ce saut conceptuel que la physique quantique est née, c'est-à-dire qu'elle a dit « Ok, maintenant je vais vous faire les calculs, et ben vous savez quoi, tous les calculs sont toujours bons. » Enfin, là je grossis le trait, mais la physique quantique a les deux pieds dans le concret, et à chaque fois, parce qu'elle considère qu'une particule, c'est juste une superposition d'états potentiels, chacun avec une densité de probabilité, mais qui interagissent entre eux, enfin, ça devient fou, enfin, il y a des phénomènes d'interférence, et on ne pourra pas tout... digérer en une demi-heure.
Il y a une expérience qui a été faite, qui est l'expérience de la double fente. C'est
ouais.
Cela.
Bon, c'en est une.
Voilà, c'en est une. Je crois que c'est une expérience que lorsqu'on envoie donc une particule, eh bien cette particule peut passer simultanément dans les deux chemins. C'est-à-dire qu'elle se transforme en onde. Elle passe simultanément dans les deux chemins.
Ouais.
Mais si on l'observe, alors elle ne passe plus dans les deux chemins.
Voilà, parce que du coup, elle redevient une particule bien sage, et du coup elle n'est passée que soit par un chemin soit par l'autre.
Et comment ça se fait ?
Ah ben on nous demande pas trop notre avis en tout cas. Le fait est que cette expérience, déjà pour être précis, la physique quantique l'avait compris, l'avait exprimé, l'expérience a eu lieu bien après, mais effectivement tout se passe comme si elle passe par les deux chemins ensemble, et ils interagissent, ces deux potentialités interagissent entre eux à la manière des ondes. C'est un peu comme les vagues, du coup, quand elles se retrouvent de l'autre côté, c'est comme si elles ont des vagues différentes et on voit un phénomène d'interférence. C'est-à-dire que c'est comme quand le haut d'une vague rencontre le bas d'une vague, elle s'annihile. Deux hauts d'une vague, au contraire, vont se renforcer. C'est ce signal, cette figure d'interférence que les physiciens ont identifié et qui leur ont montré qu'en fait c'est une onde.
Donc si on se place du côté de la physique classique, c'est-à-dire dans notre monde réel, je suis bien d'accord que si j'envoie une balle de baseball quelque part, elle ne choisit pas de chemin, elle ne se transforme pas en onde, elle reste une balle de baseball bien solide.
Oui.
Par contre, dans le monde de la physique quantique, cette balle de baseball se multiplie en 2, 3, 4, 5, 6 balles. Elle devient une onde.
Oui. Et la différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que dans notre monde classique, à notre échelle, tout simplement, dans une balle de baseball, mais il y en a des milliards et des milliards de particules qui donc vivent en société, j'ai envie de dire, qui sont tout le temps en train d'interagir entre elles. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent plus est en superposition d'état.
C'est-à-dire que cette balle de baseball, c'est comme si elle se décomposait, elle se désintégrait, que toutes ces milliards de particules venaient à se désintégrer et qu'elle prenait de la place, quoi, disons qu'elle s'étendait.
Oui, mais on peut plus trop raisonner en termes de matière, énergie. Justement, là, ce monde, cet espace-temps dans lequel nous avons la matière et l'énergie que étudie la physique, eh ben, on voit qu'on a atteint une limite. Il y a autre chose. Souvent, je trouve que la physique quantique, on peut l'apparenter à un voile avec quelque chose qu'il y a derrière. y a beaucoup d'avancées, hein. Il y a des choses, mais effectivement, c'est plus trop la peine d'essayer de comprendre en disant oui, c'est de la matière qui devient un gaz ou une onde.
Bon, en tout cas, comprenons qu'il y a une dualité corps et onde possible pour ces particules. Elles sont tantôt corps quand on les observe, tantôt onde quand on sait l'état non observable.
Et disons. La lumière est tantôt onde, tantôt particule aussi.
Voilà.
Et donc, pour en revenir à l'ordinateur quantique, ce qui se passe, c'est justement cette superposition d'états. Vous le savez, dans un ordinateur, on sait que à la base, on a des bits qui sont soit un 0, soit un 1. C'est aussi simple que ça. Et on a des petites boîtes, souvent il y a 8 bits, maintenant généralement 16, puis 32, puis 64. Enfin bref, ce sont des petites boîtes où l'information, elle est binaire. C'est soit un 0, soit un 1. Mais justement, dans un ordinateur, vu l'échelle qu'on a réalisée, on arrive à faire des petites boîtes isolées. L'électron, par exemple, si c'est un électron qui est dans la boîte, il n'interagit plus et donc spontanément, il est dans cette superposition de 0 ou de 1.
Il peut être à la fois un 0 ou un 1.
Voilà.
Donc on multiplie par une puissance phénoménale la possibilité du calcul de l'ordinateur. Il peut calculer plusieurs choses à la fois.
Voilà. Et en parallèle, il pourra calculer tous les états possibles.
En même temps.
En même temps. Et c'est vrai que ça donne... Enfin, c'est très déroutant. Je veux dire... Aujourd'hui, on arrive seulement à faire des ordinateurs avec 16 bits. Et encore, il y a beaucoup de mystères. Enfin, tu vas peut-être me reprendre, je vais peut-être trop vite, mais c'est vrai qu'il y a aussi un petit secret défense par rapport à la cryptographie. On n'en sait pas grand-chose. Mais en 2007, on avait dit, il y a des 16 bits qui marchent. Mais s'il y en avait, par exemple, 300, c'est exponentiel. En fait, tu multiplies... Ça va beaucoup trop vite. Je vais dire tout de suite, s'il y avait 300 bits, les physiciens ont calculé qu'en fait, on pourrait faire en une fraction de seconde autant de calculs qu'il y a d'atomes dans l'univers. Imagine le truc, quoi. Enfin, je veux dire, on pourrait en fait reprendre on pourrait refaire toute la mécanique de Newton et calculer exactement pour toutes les particules les équations.
Avec un ordinateur infiniment petit.
Avec 300 bits. Donc oui, on est dans le petit. Alors, il y a des gros problèmes de chaleur et tout, on va en parler des phénomènes techniques.
Ça, c'est la première, révolution de la physique quantique qui nous permet de comprendre ce que peut être un ordinateur quantique.
Ouais.
Deuxième pilier, la révolution de la physique quantique, pour toujours comprendre ce que peut être un ordinateur quantique, c'est cet phénomène de l'intrication des particules entre elles.
Alors effectivement, ça arrive par exemple en prenant deux photons. S'ils sont issus du même
photon.
Alors,
un photon, c'est une particule de lumière.
Donc, ça n'a pas les mêmes propriétés que la matière. Effectivement, un photon peut se séparer, par exemple, en deux photons, du moment qu'il respecte la conservation de l'énergie. Donc, ce seront deux photons qui auront une énergie moindre. Mais en fait, ils restent corrélés.
C'est-à-dire que si je prends ce photon-là, je prends ces deux photons corrélés, j'en envoie un sur la planète Mars.
Ouais.
Et j'en garde un ici, le prochain mois, il reste corrélé.
C'est-à-dire que si je fais une mesure sur l'un des deux, instantanément, le deuxième réagit de la même manière et donne la même
En s'envoyant
information.
Un signal ?
Justement, c'est impossible. Einstein avait vraiment a été jusqu'au bout de beaucoup de choses par rapport à sa relativité. Et il faudrait que ça prenne au moins... le temps que met la lumière pour aller de l'une à l'autre. Or là, les expériences, on en a fait beaucoup, il n'y a aucune question là-dessus, la corrélation existe bien, c'est instantané, c'est surtout non local. On n'a pas besoin de parcourir un chemin pour aller de l'un à l'autre, ça se fait de manière instantanée. C'est ça la corrélation, l'intrication.
L'intrication, ça veut dire que ces deux photons restent liés.
De manière non locale.
De manière non locale, mais disons que cet état, encore une fois... n'est possible que si l'on observe. C'est-à-dire que si on cesse d'observer...
Eh ben, ils sont tous les deux en train de faire leur superposition d'état, là, de gazouiller. C'est un amas de petites ondes qui en mouvement.
Et si je les observe, si j'en observe un, je connais automatiquement l'autre, automatiquement sa propriété.
Et oui. Et par rapport à ça, on a été très loin, grâce notamment à Einstein, qui ne voulait pas y croire, enfin, qui a sauté sur l'occasion pour revenir à la charge parce que cet aspect fondamentalement aléatoire des particules ne lui convenait pas du tout. Enfin, je veux dire, voilà. Et du coup, comme il était têtu, il a été jusqu'au bout des choses et il a repoussé la physique quantique dans ses retranchements. Et grâce à lui, on a été jusqu'au bout de ce phénomène. Ce vrai résultat ne préexiste pas à
Einstein,
la mesure.
Voilà, Einstein avait cette théorie en disant, mais que, je pense que c'était l'exemple des gants. Disons qu'il disait, si j'ai le gant de la main gauche avec moi, je sais automatiquement la propriété du gant qui se retrouve sur la Lune, ce sera forcément celui de la main droite. Donc il dit, la propriété est dans la séparation. Ce qui a été réfuté.
Bah effectivement, il disait quelque part, eux les particules, ils savaient depuis le début qui avait le gant droit ou le gant gauche. Nous on ne le savait pas, parce qu'on est des humains, c'est pas un scoop, il y a plein de choses qui nous échappent, il y a des paramètres cachés que l'on n'a jamais vus, mais les particules, elles les connaissent, ces paramètres cachés. Et on a trouvé des protocoles d'expérience qui ont montré de manière définitive que ce n'est pas le cas. La particule, non, elle n'est pas droite ou gauche depuis le début. Elle est dans une superposition complètement aléatoire et ça ne préexiste pas au moment où on va faire la mesure.
Alors pour notre ordinateur quantique, qu'est-ce que cela amène? Le fait qu'à un moment donné, une information puisse circuler d'un point A à un point B sans qu'il y ait besoin de fibres, de lasers, de canaux. Ça veut dire que je peux transmettre de l'information sans canaux, sans...
S'il faudra des canaux, justement, c'est là qu'il y a toutes les complications technologiques qui suivent, parce que notamment l'information quantique, le qubit, lui ne peut pas la stocker, l'information. Donc ne serait-ce que parce qu'il faut quand même des bits classiques pour stocker l'information, on va voir qu'il y en aura besoin de canaux.
Mais si par exemple j'inscris dans un photon, l'adresse de Radio Grenouille,
ouais,
l'onde 88.8, je l'inscris dans un photon, eh bien je peux transmettre cette information à un autre photon de l'autre côté de la planète.
Oui, tout à fait. Alors après, il faut concrétiser tout ça. Mais il y a eu des expériences, des petites bidouilles qui marchent. Ce qu'on appelle la téléportation quantique, c'est une téléportation d'informations. Et bon, bah, c'est un phénomène reconnu. Hein.
Et donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, pour la cryptologie, c'est bingo. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais être décrypté dans la mesure où ça ne passe par rien du tout.
Oui, alors c'est complexe. En définitive, là, ce que ça amène dans la cryptologie, c'est que si quelqu'un l'intercepte déjà... Moi, je le saurais tout de suite. Parce que instantanément, comme je suis corrélé avec le message...
Il faut pouvoir l'intercepter.
Ouais. Mais en plus, de toute façon, tout intervenant, il sera grillé. On verra qu'il aura agi.
Et oui, c'est ça, parce qu'automatiquement, les deux photons réagissent.
Oui.
Si j'en change un, l'autre change, peu importe lequel que je change. Donc automatiquement, j'ai l'information que j'ai été décrypté d'une certaine manière.
Mais ton idée est très bonne. Effectivement, deux photons ou deux électrons corrélés, l'un chez toi, l'un chez moi, toi tu en mesures un, et du coup, moi, je vois tout de suite le résultat.
Et tu vois tout de suite que j'ai les mesurés, du coup.
Mais tu vois, je vois ce que tu as mesuré, mais c'est pas une mesure que tu as pas décidé du résultat de la mesure.
Bien sûr.
Mais effectivement, grâce à cette corrélation, on peut très bien imaginer un truc qui ne se passe qu'entre nous, et qu'il n'y a eu aucun chemin pour aller de l'un à l'autre.
Exactement.
Oui.
C'est quand même extraordinaire.
ouais, c'est complètement fou. Is it just fantasy? Caught in the landscape, out of touch with reality. Compactify, on S5 or T-star S3. Space is a pure void, why should it be stringy? Because it's quantum not classical, non-renormalizable. Any way you quantize, you encounter infinity. You see. Must interact via paths
understand using Feynman diagrams. Often they will just rebound, but now and then they go another way. The quantum.
Voilà, c'était un petit cours de physique spirituelle, disons, version a cappella sur une musique de Queen. Vous avez tous identifié, évidemment. Marc-Antoine, nous parlons de physique quantique et d'ordinateur quantique. Nous avons parlé de la superposition des états. Nous avons parlé de l'intrication et des possibilités de téléportation. Ce sont des choses qui commencent à s'expérimenter dans les laboratoires, la possibilité de transmettre une information d'un photon à l'autre. Il y a un monsieur qui s'intitule Schrödinger, qui, avec son expérience du chat de Schrödinger, a tenté de défier la physique quantique au monde réel, au monde le nôtre, enfin j'ai dit le monde réel, celui qui est observable, perceptible, et il a voulu voir si son chat pouvait être simultanément dans ces deux états, et ça n'a, je crois que ça n'a pas marché.
Écoute, ça c'était en fait le chat de Schrödinger, c'était une image pédagogique, à vue pédagogique, il n'a pas tant essayé de faire cette expérience, mais on va la décrire quand même, effectivement. Prenons un noyau d'uranium, un noyau radioactif. Ça, c'est un objet concret, physique, purement, qui a des comportements quantiques. Et effectivement, on peut trouver un petit outil pour que sa désintégration, qui est complètement aléatoire, par un phénomène de réaction en chaîne, top un électron qui va toper un appareil, qui va créer un courant, qui va, en fin de chaîne, faire tomber une petite fiole empoisonnée dans une boîte hermétique. Dans cette boîte hermétique, il y a un pauvre malheureux chat. Et effectivement, comme la désintégration d'un noyau d'uranium est aléatoire, l'état du chat, étant vivant ou mort, est aléatoire lui aussi. Et comme donc l'uranium est un phénomène quantique, et ben, comme on le disait tout à l'heure, il est dans la superposition des deux états en même temps. Et ça ne préexiste pas à la mesure. Donc cette expérience montre par exemple une chose. Si je laisse ma boîte fermée, que je la mesure pas, donc je n'interagis pas avec le chat. Mettons que je le mesure à 14h15, j'ouvre la boîte pour voir s'il est vivant ou il est mort. Si en fait je trouve qu'il est mort, je referme ma boîte, et puis bon ben on s'arrête là, maintenant le résultat des défaits. Mais si j'attends, si en fait j'ouvre la boîte seulement à 14h30, et qu'à 14h15 je ne l'avais pas ouverte, eh ben, il y a de fortes chances pour que quand j'ouvre la boîte, eh ben, il est encore vivant. Parce que je n'ai pas interagi avec, enfin, je ne l'ai pas forcé à devenir soit mort, soit vivant à 14h15. Tu vois, cet effondrement de la fonction d'onde qui intervient nécessairement dès qu'on fait une mesure.
Ça, c'est quand même dingue. Je veux dire, les choses, elles existent dans ces plusieurs états à la fois, mort et vivant. Mais dès que je l'observe, que je mesure, ça doit se positionner soit mort, soit vivant.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on a toujours vu une particule soit mort, soit vivant, quoi. C'est notre réalité à laquelle on est habitué.
Si un médecin vient constater ma mort, bien s'il ne la constate pas, je peux être encore mort ou vivant. Mais c'est à partir du moment où il dit « vous êtes mort » que je suis mort.
Et donc toute la difficulté pour les physiciens, c'est de faire ce lien entre la réalité quantique et notre réalité à nous.
Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que en une seconde, nos particules ont déjà interagi des millions de fois les unes avec les autres. Donc cet état de superposition d'onde n'a pas le temps vraiment de s'installer. Ça va beaucoup trop vite. Dans un ordinateur quantique, justement, on arrive à les isoler et les phénomènes quantiques ont le temps de se réaliser.
Est-ce que tu penses que la téléportation des corps... Si je scanne toutes les particules qu'il y a sur ton corps, si j'arrive à les scanner, est-ce que tu penses que je peux te téléporter à un autre endroit ?
Ben, en tant que physicien, non, je dois dire que la technologie n'existe pas encore. Hein. On en est à la téléportation d'informations, alors pourquoi pas essayer après de trouver sur place les atomes de calcium, d'hydrogène, d'azote, de soufre et tout pour reconstituer le corps humain. Mais les particules matérielles, elles ne pourront pas être téléportées. Il faudra retrouver de la matière première sur le site où il y a eu la téléportation
de
l'information.
En fait, il faut la matière. Il faut que la matière préexiste.
Oui.
Ce n'est pas de la matière qu'on transporte.
C'est pas un déplacement. Voilà.
C'est
voilà.
un déplacement de particules, de...
d'informations, j'ai envie de dire, pour grossir le trait, ouais.
De lumière, de...
Ouais.
Mais pas de matière.
Ouais.
Donc, il faut que j'existe déjà, quand même, malgré tout, ailleurs.
Faut que les atomes qui te constituent, faudrait qu'ils soient là-bas. Mais on imagine bien le défi technologique que ça représente. Parce qu'après tout, on est fait de trois fois rien. Hein. On peut en retrouver sur Neptune, peut-être. Hein, tu vois, les atomes qui constituent notre corps. C'est, on est dans le gros universel, là. Mais bon, voilà, faut quand même... grosse technologie.
Est-ce qu'on peut, juste avant la fin de cette émission 56, ouvrir sur théorie des cordes?
Si tu veux, oui.
Qu'est-ce que c'est, la théorie des
cordes?
Alors,
la théorie des cordes. Le fondement conceptuel, c'est qu'en fait, toutes les particules... on les exprime comme étant des résonances, des fréquences. On parle de cordes parce qu'on imagine qu'il y a une boucle, une corde, qui vibre. Et les différents modes, les différentes harmoniques, comme sur une corde musicale, nous donneraient les masses de différentes particules, ou les énergies des différentes particules, que ce soit lumière ou matière. Tu vois à peu près ?
Toute chose serait une vibration.
Voilà.
Une corde qui vibre.
La masse serait reliée à une fréquence de vibration.
Donc moi j'émettrai une vibration, tu émettras une vibration.
Et l'idée c'est qu'il y a une corde fondamentale, une note fondamentale, et que toutes les particules sont des harmoniques de cette même fondamentale, si je pousse un peu le bouchon.
Donc si tu émets une vibration et que moi j'émets une vibration, je peux donc à distance capter ta vibration et la lire. Et avec cette vibration, j'obtiens des informations sur ta propriété.
Là, on parle dans d'autres domaines. On n'a pas besoin d'aller dans la théorie des cordes. On pourra rester dans la physique quantique pour parler de tout ça. Parce que là, il faut faire une grande distinction. Hein. La théorie des cordes n'est pas une théorie physique. Ah. Je veux dire par là qu'elle est... elle est déconnectée du monde expérimental. Il y a même des méchants comme Pauli, qui est un grand monsieur physicien mathématicien. Il disait, écoutez, la théorie, me demandez pas, elle est même pas fausse. Il disait ça avec son sens de l'humour. C'est-à-dire qu'on peut même pas prouver si elle est juste ou pas. Et du coup, elle a un statut un peu particulier. Mais elle est superbe. Je veux dire, conceptuellement, calculatoirement parlant, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Mais, ce n'est pas comparable à la physique quantique qui est deux pieds dans le concret.
Ce n'est pas une théorie vérifiable.
Voilà. Elle n'est pas vérifiable dans la mesure actuelle des choses.
Mais quand même, il faut rappeler tout de même que la physique quantique, les concepts de la physique quantique...
Là, on est dans les deux pieds dans le concret. Hein.
On est dans les pieds dans le concret, mais ils ne sont pas vérifiables dans un monde observable. C'est-à-dire dans notre monde concret. C'est-à-dire qu'on est quand même sur de l'abstraction au niveau des calculs mathématiques.
On ne peut pas prendre en photo un électron, mais n'empêche que notre IRM y marche, nos microscopes à effet tunnel y marchent, nos rayons laser y marchent, nos GPS dans nos ordinateurs portables y marchent. Et ça, sans la physique quantique, et c'est folie, ça ne marcherait pas. Donc on est quand même dans du très factuel, du très réel.
Merci Marc-Antoine pour nous avoir rappelé que la physique quantique était déjà parmi nous bien avant qu'on en parle aujourd'hui avec cette histoire d'ordinateur quantique, dont je rappelle d'ailleurs quand même que tout le monde est en train de, ce n'est pas uniquement la NSA, mais tous les laboratoires, qu'ils soient civils, militaires ou autres, qui travaillent sur les questions de physique quantique, sont intéressés par ces questions de l'ordinateur quantique, puisque la science a aussi ses enjeux d'application,
oui,
n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Merci Marc-Antoine Sénéchal.
Merci à toi.
Merci Jean-Baptiste.
Chouette, chouette, un direct. Le batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct, en direct. 88.8 FM.
Nous écoutez à volonté, radiogrenouille.com.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale.
radiogrenouille.com.